franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre,
bonjour.
Bonjour Monsieur Lassalle et bonjour à tous. Si seulement il n'avait pas été myope. C'est ce qu'on se dit à la lecture du portrait signé par Sophia Amara dans Paris Match. Longue enquête et portrait donc de celui qui dirige le groupe État islamique. Abou Bakar al-Baghdadi, sans jamais se montrer, ses combattants le surnomment d'ailleurs le fantôme, il sème aujourd'hui la terreur aux quatre coins du monde, et il est l'homme le plus recherché du monde, un homme de 45 ans qui règne sur un territoire comptant 7 millions d'âmes. Et ce que nous raconte Sophia Amara, c'est la métamorphose d'un gamin timide en dictateur sanguinaire. Aujourd'hui, il est dictateur sanguinaire, mais rien ne semblait le destiner à un tel parcours. Dans son enfance, dans sa jeunesse, rien ne permettait de déceler qu'il serait un jour amené à prendre la tête du terrorisme mondial, surpassant, et de loin, tous ses prédécesseurs. Ibrahim al-Badrim, nom qu'il portait à sa naissance, voit le jour à Samara, à 1 heure de route de Bagdad. Une famille pauvre et illettrée. Le garçon est alors discret, même transparent. Témoignent ceux qui l'ont fréquenté à l'époque. Ce qui l'intéresse alors, c'est le football et rien que le foot. Plus tard, ses parents déménagent dans la capitale irakienne et à ce moment-là, il voulait devenir avocat, assure un ancien camarade de son collège. Mais ses résultats très médiocres lui interdiront l'entrée de l'université de droit. Il pense alors à faire une carrière militaire, mais il est recalé de l'armée pour cause de myopie. Si seulement Baghdadi n'avait pas été myope. La seule faculté à l'accepter sera celle de théologie. Et les mosquées deviendront ses deuxièmes maisons. Peu à peu, il bascule dans la radicalité et tente d'imposer à tous sa vision rigoriste de l'islam. C'est en 2003, quand l'Amérique envahit l'Irak, qu'il prend le maquis et décide de créer un groupuscule djihadiste. Mais il n'est encore qu'un second couteau, puis il est arrêté et incarcéré dans un camp de prisonniers au milieu du désert. Là aussi, ceux qui l'ont côtoyé rapportent qu'il était un type sans envergure, il était toujours seul, sans aucun charisme, incapable de fédérer les auditeurs autour de lui quand il s'adonnait à ses prêches. Mais il a par la suite gravi tous les échelons des mouvements terroristes en place dans la région, Al-Qaïda d'abord, puis le groupe État islamique dont il a pris la tête. Il y a bientôt 4 ans, il a entraîné avec lui des centaines de milliers de fidèles dans la barbarie. Aujourd'hui, le gosse timide est devenu, écrit Maconseur, l'homme le plus féroce de la planète. Féroce, mais fantôme. On dit qu'il se cache sous terre et s'emploie à n'utiliser aucun des moyens de communication modernes. Al-Baghdadi est introuvable. Il vit sous terre, comme les rats, ou plutôt comme les taupes. Elles aussi, c'est connu, elles sont myopes.
La presse d'ailleurs ce matin brosse également le portrait d'un homme que Daesh présente comme un de ses soldats.
Son visage dans le Figaro et aujourd'hui le Parisien. Portrait de l'auteur de l'attentat perpétré à Westminster mercredi, terroriste discret, titre le Figaro. Tandis que le Parisien évoque la déroutante normalité du terroriste de Londres. Et pendant ce temps-là, le groupe État islamique poursuit sa tyrannie. Lire dans Libération le reportage de Luc Mathieu à Mossoul. Aujourd'hui, la partie ancienne de la ville est encerclée par les forces irakiennes, mais elle reste toujours aux mains des djihadistes et l'on estime à 400 000 le nombre de civils pris au piège. Des civils sous les bombardements qui n'ont quasiment plus d'eau et quasiment plus de nourriture. Les ONG s'alarment, d'autant que ceux qui parviennent à s'échapper sont à peine mieux lotis, agglutinés dans un camp. À l'hygiène très rudimentaire, il raconte que les combattants du groupe État islamique se servent des habitants de Mossoul comme boucliers humains et qu'ils décapitent tous ceux qui tentent de fuir si seulement Baghdadi n'avait pas été myope.
Dans la presse, Frédéric, il est aussi question bien sûr de la campagne présidentielle avec notamment le portrait d'un certain Jean Lassalle.
Un portrait en 5 actes, signé Vanessa Schneider dans M, le magazine du Monde. Le 5e acte, Monsieur Lassalle, c'est celui de votre candidature à l'Élysée. Je ne vais pas y revenir, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore très bien, je vais m'arrêter aux 4 autres. Titre du papier, le maître du happening politique. Et de fait, vous vous y connaissez très bien en happening politique. En 2003... vous êtes chanteur d'alerte. Vous vous faites remarquer en chantant a cappella dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale une chanson béarnaise. Vous vouliez ainsi interpeller Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, pour obtenir le maintien d'une gendarmerie près du tunnel du Son-Port. Et vous êtes entendu, la gendarmerie ne sera finalement pas fermée. En 2006, vous êtes gréviste de la faim. Vous souhaitiez alerter l'opinion sur le départ de l'usine Toyal. Employant 150 salariés dans la vallée d'Aspe, en 5 semaines, vous perdez 21 kilos. Mais là encore, vous êtes entendu, sur intervention de Jacques Chirac, Toyal abandonne son projet de nouvelle implantation. En 2013, vous êtes le marcheur invétéré, un tour de France pour aller écouter les souffrances des citoyens et vous faire, disiez-vous, le porte-voix des sans-voix. Et puis, en 2015, cette fois, selon l'hebdomadaire, vous êtes le clown de l'Assemblée. En plein débat sur la loi Macron, vous faites rire vos collègues en racontant à quel point l'examen du permis de conduire avait été pour vous, je cite, une épreuve redoutable. Vous ne l'avez décroché qu'à la troisième fois. Puis en évoquant la mise en place éventuelle de tests psychotechniques, vous confiez sérieusement « J'avais 8 ans quand j'ai passé un tel test à l'école ». Et il avait alors révélé que j'avais un QI juste légèrement au-dessus de zéro. Dès lors, monsieur Lassalle, est-ce que vous diriez que la politique n'est pas une question d'intelligence ? Ou alors faut-il penser que les tests de QI ne signifient vraiment rien ? C'est une question.
Je dois y répondre.
Oui, vous y répondre, bien sûr.
Oui. D'abord, je veux préciser que chaque fois que j'ai posé un acte de cette envergure, c'est pour dénoncer un fait local que je vivais dans ma chair, en même temps que mes compatriotes, mais qui avait une ampleur nationale. La gendarmerie. Et c'était aussi un centre de secours. Et c'était la fin des services publics à la française. Donc la fin de liberté, égalité, fraternité. L'entreprise, comment lever ? Il y en avait 750 000 qui disparaissaient en France à ce moment-là. Ce qui nous vaut le chômage de masse que nous avons. Et quand je suis parti à la rencontre des Français, j'ai voulu poser un acte de résistance à ce système qui s'est imposé à nous à partir d'un des plus beaux modèles qui ait existé au monde, c'était le nôtre à la chute du mur de Berlin, et nous l'avons poussé au crime à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à nous avoir dépossédés du pouvoir et à vous avoir mis, chers amis, prenez-y garde tous, je me permets de vous le dire, prenez-y garde en très grande difficulté vis-à-vis de la liberté d'expression au pays des droits de l'homme.
Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, mais c'est pas grave du tout. Ça n'est pas votre candidature qui fait la une ce matin. Et pas notamment celle du Figaro. Fillon-Hollande, le choc. C'est le titre à la une, selon le journal. Les accusations portées par le candidat Les Républicains contre le président de la République ont pris la dimension d'une affaire d'État. Pour rappel, jeudi soir sur France 2, François Fillon a accusé François Hollande d'être à la tête d'un cabinet noir destiné à lui nire. En centre du débat, un livre paru cette semaine, Bienvenue, place Beauvau, écrit notamment par deux journalistes du Canard Enchaîné, lesquels mettent au jour un système de recueil d'informations au service du président. Mais les auteurs dénoncent une instrumentalisation de leur livre par, je cite, un homme aux abois. Et de citer un extrait de l'ouvrage à propos d'un supposé cabinet noir à l'Élysée. Il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. Commentaire d'Emmanuel Fransten dans Libération. Pas plus que l'existence de Dieu, l'existence d'un cabinet noir ne serait donc démontrable rationnellement. Des proches du chef de l'État expliquent par ailleurs, si seulement on était capable de faire un cabinet noir. Et puis sur le front des affaires, nouvelle histoire à lire dans Le Parisien. Après les costumes, les montres. Alors qu'il était Premier ministre, François Fillon s'est fait offrir une montre à plus de 10 000 euros par un homme d'affaires italo-suisse et une autre de grande valeur lui a été offerte par le manufacturier suisse Rebellion. Commentaire d'un député LR désabusé. François Fillon, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent, sauf qu'à chaque fois qu'on ouvre une case, on ne trouve pas un chocolat, mais une nouvelle affaire.
Courage, vous allez voter pour lui, va.
Allez, un peu de courage. Sans intérêt. Pour finir, dans les colonnes de Gala, de retour d'un week-end dans la capitale italienne, l'actrice Monica Bellucci a pris l'avion toute seule, entre Rome et Paris, sans escorte et sans aide pour porter sa valise. Incroyable, n'est-ce pas ? Si seulement j'avais été là. Et puis, pour finir, j'ai lu dans les journaux que le 25 mars, c'était la journée mondiale de
la... Calmez-vous, les garçons.